Alors, aujourd'hui, je suis absolument ravie de recevoir Anne Goscinny. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, Anne Goscinny, on est déjà au tome 8 du monde de Lucrèce chez
Absolument.
Gallimard. Et c'est un succès fulgurant. C'est des histoires de littérature jeunesse. Il y en a 10 par tome. Donc, ça fait déjà 80 histoires avec ça. Donc, ça va très, très vite. Et des centaines de milliers de petites filles et d'adolescentes qui aiment Lucrèce. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès, Anne Goscinny?
Alors, pas du tout, parce que d'abord, on ne s'attend jamais à un succès. Et pour dire la vérité, on ne s'attend non plus jamais à un échec. Donc, en fait, il faut être philosophe quand on fait ce métier. Et là, avec Catel, quand on est arrivé chez Gallimard Jeunesse, ils nous ont dit, vous savez, c'est très compliqué d'arriver à accueillir des nouveaux lecteurs pour un nouveau personnage. Il y a énormément de propositions déjà. Et en gros, ils nous ont dit ne vous attendez à rien. Et puis finalement, le succès est arrivé tout de suite puisque la première semaine, ils ont dû réimprimer. C'est la première semaine, c'était en mars 2018, le 8 mars 2018, le jour de la journée de la femme. Et là, ça fait 5 ans et demi maintenant que Lucrèce fait partie du paysage littéraire pour les jeunes lecteurs. Électrice. Et c'est un succès qui va croissant, donc c'est très agréable pour l'auteur que je suis, très agréable évidemment. Mais rien n'est jamais acquis et je travaille beaucoup pour maintenir un niveau qu'apparemment mes jeunes lecteurs aiment.
Les jeunes et les moins jeunes, parce que moi qui suis une mère archi débordée, comme celle du monde de Lucrèce, je sais que je ne suis pas la seule à les lire aussi. Parce que dans vos Lucrèce, il y a évidemment l'héroïne, ses copines, mais il y a toute sa famille, donc ses parents et ses grands-parents.
Oui, mais c'est très vrai ce que vous dites parce que moi j'écris pour les enfants, mais avant tout j'écris pour moi, pour mes copines, pour faire rigoler Catel aussi. On a sensiblement le même âge, et je pense que à partir du moment où on essaye d'être drôle pour soi, pour les gens de son âge, sans nécessairement viser une tranche d'âge en particulier. On rassemble un public assez large, évidemment. La seule différence la différence telle que moi je la pratique avec la littérature générale pour adultes, qui est mon vrai métier aussi, c'est qu'il faut un tout petit peu être attentif au champ lexical utilisé. Il faut pas que l'enfant qui sait lire depuis quelques années seulement ait besoin d'un dictionnaire ou d'internet pour comprendre le champ lexical. Donc, il faut faire un peu attention. Il faut également faire aussi attention à bien dire qui parle. Ça, je l'ai appris en commençant Lucrèce. Il faut aussi faire attention à ne pas trop pratiquer l'art de l'ellipse. Il faut jamais perdre le jeune lecteur, en fait. Il faut jamais lui lâcher la main. Et ça, c'est un exercice au début très déstabilisant quand on a écrit que pour les adultes, ce qui est mon cas. Et finalement, qui devient comme une seconde peau, quoi, une seconde nature assez naturelle. Mais c'est très passionnant, hein.
Mais oui, c'est vrai que pendant longtemps, Anne Goscinny, vous n'avez pas voulu justement vous occuper de ce lecteur jeune parce que vous disiez toujours, on ne fait pas de l'opéra quand on est la fille de Mozart. Et finalement,
Effectivement.
qu'est-ce qui vous a donné le déclic? C'est la rencontre avec Catel, c'est ça?
Alors, c'est la rencontre avec Catel, c'est le fait qu'elle a consacré une de ses magnifiques biographies graphiques à mon père. Et à cette occasion, on a dû passer beaucoup de temps ensemble, elle et moi. On s'est beaucoup vus, on a beaucoup ri, on est devenus très amis, alors qu'on aurait pu rester simplement des compagnes d'écriture en aventure, enfin voilà. Et finalement, la magie a opéré. Et quand deux personnes s'aiment, eh ben, ils font un enfant. Et quand deux amies qui sont toutes les deux des auteurs s'aiment, eh ben, elles créent un personnage.
Eh oui, et elles font déjà 8 tomes, et même le 9e que vous avez déjà fini, je le sais.
Oui, j'ai fini le 9e. Et là, je vais penser au 10e même.
Anne Goscinny, qu'a-t-elle, quand elle vous a rencontré, avant de devenir une vraie amie pour vous, elle vous a dit que vous étiez beaucoup plus drôle dans la vie que les livres que vous écrivez. Et j'avoue que j'ai la même impression. Est-ce que c'est un côté peut-être d'un humour ashkénaze d'être discret comme ça, peut-être plus souvent, et de se permettre d'autres choses?
Ah oui, moi je me sens très, je revendique cette filiation ashkénaze. Oui, bien sûr. Je crois que, alors comme mon père, je suis une grande, grande timide. Et c'est vrai que être drôle, c'est se livrer. Et on ne se livre pas avec tout le monde. Et je peux passer des dîners entiers à ne pas parler, pas dire un mot, parce que tout d'un coup, je vais être paralysée. Voilà, parce que je me sentirais pas bien ou j'aurais l'impression qu'on m'aime pas. Enfin, ça, c'est pour le coup très ashkénaze, c'est vrai. Et cette timidité-là, avec Lucrèce, je me soigne un peu. J'arrive à montrer une facette de moi que je cache bien dans mes livres, c'est vrai, et parfois bien dans la vie aussi. Mais finalement, Lucrèce est née aussi, alors ça paraît être un grand mot, mais elle a une vertu pour moi de réparation, Lucrèce. Parce que mon enfance à moi s'est arrêtée très brutalement quand j'avais 9 ans, quand mon père est mort. Et cette adolescence qui débute, Lucrèce, elle a entre 11 et 12 ans, entre 11 et 12 ans à peu près, et c'est un âge où on a envie, où les jeunes adolescentes ont envie d'aller voir ce qui se passe du côté de la vraie adolescence, c'est-à-dire des vraiment plus grands, mais où elles ont encore ces adolescents la possibilité de se rapatrier assez vite sur le sable chaud de l'enfance. Donc finalement, un bout d'orteil dans la mer glacée de la vraie adolescence, et très vite, on sait qu'on peut se rapatrier sur ce sable chaud. J'ai pas eu cette chance-là. À 11 ans, je sortais d'une grave maladie du rein, de la mort de mon père. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et écrire la fin de l'enfance et le début de l'adolescence de cette petite fille, quelque chose de, non pas de thérapeutique, parce qu'il faut pas utiliser des grands mots, ce serait pas juste, mais quelque chose d'extrêmement agréable. Je vis un peu ce moment-là que j'ai pas eu la chance de vivre en l'inventant, en l'écrivant, et ça vaut peut-être une psychanalyse, qui ne m'épargne pas une psychanalyse réelle, mais peut-être c'est un complément de séance, voilà.
En tout cas, c'est plus sympathique et vous le partagez avec beaucoup plus de gens. Alors, et on sait que les liens avec les personnages de fiction, ils peuvent être extrêmement forts, et c'est pas à vous, après le petit Nicolas ou Astérix, que je vais apprendre ça, mais je me posais la question par rapport à Lucrèce, hein, du fait que ça soit important sans doute et sécurisant pour les filles de lire ces aventures et de s'imaginer ou de se mettre à sa place pour résoudre des problèmes qu'elles ont aujourd'hui. C'est aussi ça que vous avez envie de faire avec Lucrèce?
En fait, ce que j'ai eu envie de faire avec Lucrèce, ça va vous paraître très très prétentieux, mais c'est pas grave, allez, j'assume. C'est un peu un anti-Harry Potter. C'est-à-dire que la magie dans Lucrèce, c'est une magie qui est à la portée de tous les enfants qui ont la chance d'avoir une enfance. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Mais la magie dans Lucrèce, c'est l'amour des parents, la tendresse des grands-mères, l'admiration, l'affection, le respect qu'on peut avoir pour l'enseignant et qui est partagé et réciproque, l'amitié dont on fait la connaissance avec ses premières amies pour la vie. Voilà, c'est la magie pour moi, elle réside là-dedans, dans des choses très humaines. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de balai qui vole, il n'y a pas de train qui vont nulle part. Enfin, c'est une magie quotidienne.
Alors, vous avez cité Harry Potter, Anne Goscinny. Moi, je vais vous citer Titeuf, Lucrèce et les Cahiers d'Esther, par exemple, pour vous dire, on dit toujours que les enfants ne lisent plus, que toute cette génération ne lit pas. Et en fait, preuve en est qu'il y a des centaines de milliers d'exemplaires de tous ces livres-là qui sont vendus. Est-ce que donc, quand on leur présente le bon personnage, ils lisent automatiquement?
Oh, je crois malheureusement qu'il y a beaucoup de bons personnages qui passent à côté de leur lecteur. C'est voilà, nous on a eu beaucoup de chance et vraiment moi je parle de chance. Enfin, on est peut-être arrivé au bon moment. Catel est très connu, son dessin est très efficace, il est charmant son dessin, il est à la fois naïf et un peu réaliste, mais il est surtout naïf dans ces planches d'une page entière, on a envie de sauter à pieds joints comme dans le trottoir de Mary Poppins.
Ouais.
Je crois qu'il y a beaucoup de très bons livres pour la jeunesse et pour les adultes, hélas, qui ne rencontrent pas leur public. Moi, je dis pas du tout que j'écris mieux que les copains et que je suis plus drôle et tout ça. Je dis que je suis arrivée au bon moment. Voilà, vous savez, j'aime bien le mot juste. Je suis arrivée au moment juste, peut-être.
Dans la vie, c'est très important le timing, c'est vrai. Alors, dans Lucrèce, il y a quelque chose que vous faites très bien et que faisait très bien votre père dans Le Petit Nicolas, c'est d'inverser les adultes et les enfants.
Ah oui, c'est bien, vous avez remarqué ça. Rares sont les gens qui pointent ça. C'est vrai que ça, c'est ma grande passion parce que j'ai beaucoup lu Le Petit Nicolas, évidemment. Et dès que j'ai été en âge et en capacité d'analyser l'œuvre, je me suis dit, mais quel est le principal ressort comique du Petit Nicolas? Et c'est effectivement que les enfants sont souvent plus mûrs que les adultes.
Ouais.
Et les adultes ont des réactions d'enfants. Et c'est bien inconscient. Quand j'ai commencé Lucrèce, très vite, la première histoire, j'ai réalisé que je faisais exactement ça. Alors, Lucrèce et le Petit Nicolas ont un ADN en commun, évidemment, un lien de parenté. Mais je me suis dit que finalement, le ressort comique, et c'est ça qui fait rire aussi mes copines, à moi, j'ai 55 ans, c'est par exemple le personnage de la grand-mère, qui est complètement fantasque.
Scarlett, elle est extraordinaire.
Oui, Scarlett, qui s'appelle en réalité Arlette, et voilà. c'est ce personnage-là, qui picole, qui aime les hommes, qui dit que les animaux les plus mignons sont des animaux morts, enfin, ce qui est absolument l'inverse de ce que moi, je pense, hein. Évidemment, mais Scarlett est un personnage transgressif et les enfants, ça les fait marrer. Quand dans des salons du livre où je dédicace beaucoup, beaucoup, je signe beaucoup de livres, je dis aux enfants parfois, je lève la tête et je dis, mais quel est ton personnage préféré? Deux fois sur trois, c'est la grand-mère, c'est Scarlett.
Ouais.
Parce qu'elle fait tout ce qui est interdit.
Elle boit et elle joue au poker.
Oui, elle joue au poker et là, dans le volume 9, qui va dans un an, en septembre prochain, là, elle essaye d'apprendre les règles du poker à la correspondante anglaise de Lucrèce, qui finalement repartira de chez Lucrèce sans savoir parler français,
mais
en jouant. On joue au poker. et puis, il y a aussi ce personnage qui me tient à cœur beaucoup, qui est le personnage de Boubé, c'est-à-dire l'autre grand-mère, la mère du père, qui ressemble comme une sœur jumelle à la mère de mon père,
à la vôtre.
Qui s'appelait Anna. Et d'ailleurs, elle s'appelle Anna aussi dans le livre. On comprend assez vite qu'elle est ashkénaze, elle aime la carte farcie, elle boit de la vodka, elle mange des cornichons, elle perd la mémoire tout en ayant gardé l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle se souvient de ce qu'il faut transmettre à tout prix et elle ne se souvient pas de ce qu'elle a eu pour le déjeuner. Voilà, j'adore animer ce personnage parce que souvent, quand je vais parler à des enfants, ils me demandent de parler de ce personnage qui leur échappe un peu, qui est un personnage un peu fantomatique, qu'on retrouve d'ailleurs très précisément dans un de mes bouquins qui s'appelle « Le sommeil le plus doux », qui est paru, je crois, en 2016. Donc, Lucrèce n'était pas du tout née. Enfin, voilà. Et dans « Le sommeil le plus doux », j'ai créé une grand-mère, la mienne en l'occurrence, qui s'appelle Anna, et pareil, qui perd un peu la mémoire, qui est obsédée par ses bocaux de cornichons qu'elle entasse. Et on ne sait pas très bien si c'est un fantôme ou si c'est un personnage réel. Et finalement, ce personnage-là de vieille dame qui s'accroche à sa mémoire est vraisemblablement un personnage qui me poursuivra longtemps, puisque je
Parce que,
l'anime pour les enfants et je l'ai animé pour les adultes.
bien sûr, parce que en fait, Anne Goscinny, comme votre papa, en plus de faire rire, vous mettez toujours et de la tendresse et de la transmission.
Oui, je crois que la tendresse, voilà, la tendresse, c'est, on peut pas s'en passer, en tout cas moi. Et la transmission, je pense que, voilà, que rien n'est le fait du hasard et que si moi je suis là, si mes enfants sont là, c'est aussi pour jamais oublier, pour toujours raconter, pour lire, pour voir des films ou pour en faire. Voilà, c'est moi, c'est comme ça que je me dis que j'aurais pas vécu pour rien, j'aurais pas perdu ma vie si même dans mes histoires pour enfants, là dans le volume 8 que vous avez, il y a une histoire qui s'appelle Mémoire. Voilà, si les enfants se posent des questions à la fin de cette histoire et disent à leurs parents, mais quel est cet enfer créé par les hommes dont parle la grand-mère de Lucrèce, ben j'aurais fait œuvre utile.
Et justement, j'allais vous en parler de cette histoire. C'est la première fois là dans Lucrèce que vous donnez une référence aussi claire, hein, peut-être, à cet épisode
Oui,
tragique de
oui.
l'histoire.
Oui, c'est la première fois et ça a été très compliqué parce que c'est une histoire qui est sortie en 1 heure, je l'avais écrite. J'ai l'impression vraiment que c'est une histoire qui était tapie au plus profond de moi.
Oui.
Et puis sans que je la voie venir, alors évidemment j'ai dû lui inventer un cadre, parce qu'on ne parle pas de ça comme ça, hein,
Oui.
mais sans que je voie venir ce qui est venu, cette histoire était sur la page Word de mon ordinateur. Et quand je l'ai envoyée à Gallimard Jeunesse, j'ai pris une précaution, je leur ai dit, attendez, si vous trouvez que c'est pas dans le plan, entre guillemets, éditorial, j'allais dire électoral, n'importe quoi, éditorial de Lucrèce, vous me dites qu'il n'y a pas de problème et puis je remiserai mon histoire. Et ils m'ont dit non, non, c'est très bien. Alors, c'est pas une histoire qui fait rire, c'est pas une histoire qui fait sourire, même s'il y a des éléments qui peuvent être un peu, qui peuvent prêter à sourire, c'est une histoire qui fait réfléchir.
Bien sûr.
Et voilà, moi, je me prends pas du tout pour ce que je suis pas, j'essaye pas du tout de parler de faits de société, je serais bien incapable d'ailleurs. Dans le volume 2, je raconte un mariage entre deux hommes, mais parce que j'estime que c'est plus un fait de société, c'est quelque chose, voilà, qui est devenu normal, qui est passé dans le langage courant et auquel j'adhère à 1000%. Mais je serais bien incapable, par exemple, de créer un personnage d'enfant de 11-12 ans qui ne sache pas s'il est une fille ou un garçon. Non pas que je critique quoi que ce soit de ça, pas du tout. Loin de moi, d'ailleurs, c'est pas, voilà. Mais je serais pas capable d'animer un personnage comme ça. Je serais pas capable. Je saurais pas comment prendre la chose tellement elle me paraît délicate. Et c'est, voilà, c'est, je crois qu'il faut, je crois qu'il faut, il faut, il faut savoir, il faut connaître ses limites. Et là, ce sont mes limites. Je
Alors,
voudrais pas heurter en étant maladroite. Voilà.
bien sûr. Alors, cette histoire, elle est un petit peu à part dans un tome 8 qui est toujours très drôle, toujours très frais, où on retrouve tous les personnages et où Lucrèce part en classe de neige. C'est ça le grand
Oui.
événement de ce tome 8.
Oui. Lucrèce part en classe de neige. Alors, c'est très rigolo parce que elle part en classe de neige parce que Catel m'a dit, écoute, essaye de la faire un peu quitter sa ville. Alors, sa ville qui n'est jamais mentionnée. Hein. Essaye de la faire un peu quitter sa ville parce que moi, j'ai envie de dessiner autre chose. Et moi, j'ai beaucoup de mal à laisser partir Lucrèce, comme j'avais beaucoup de mal à laisser partir mes enfants qui sont raisonnablement partis en classe de nature, classe de neige. Enfin voilà, ils ont été à l'école publique et tout, ils sont partis avec leurs copains. J'ai jamais empêché. Mais enfin, sur le quai de la gare de Lyon ou sur le quai de la gare Montparnasse, j'étais pas belle à voir. Donc j'ai beaucoup de mal à la laisser partir cette petite Lucrèce. Et là, je me suis dit, allez, courage, sois courageuse. Et je l'ai laissée partir. Et dans le volume 9, elle part en Angleterre pendant une histoire. Mais c'est presque une douleur, hein. C'est très étonnant. Et mon éditeur m'a dit, t'as consacré qu'une seule histoire à Londres. C'est un peu, enfin voilà, t'aurais pu consacrer au moins deux histoires, quoi. Il y a de quoi dire sur Londres. Et
Ouais.
je lui ai dit, ah, non, 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 j'étais trop angoissée, il fallait qu'elle rentre.
Bon,
Bon,
moi
donc
j'en déduis
là, c'est la
qu'entre
mer
l'humour
grise.
ashkénaze et l'angoisse, voilà, j'allais vous le dire.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Bon,
Et
mais ça.
effectivement, c'est presque ridicule parce que je cite Buckingham Palace, Madame Tussaud, etc. Et puis elle revient. Il me dit, ah bah déjà, je dis bah oui, j'avais besoin qu'elle rentre, j'avais besoin de la revoir.
Bon,
Comme si je
eh
l'avais
bien.
lâchée alors que c'est moi qui l'anime.
Eh bien, c'est bien. Je crois qu'entre l'humour ashkénaze et la mer juive, on était vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Judaïka, Anne
Et
Goscinny.
moi, ravie d'être avec
Merci.
vous.
Merci
Merci à
pour
vous,
votre
Louise.
talent. Donc, Le Monde de Luc XIII, tome 8, c'est chez Gallimard. Et quel que soit votre âge, je vous en conseille la lecture. Merci à vous et bonne journée, Anne Goscinny.
Merci beaucoup. Au revoir.